Merci, merci à tous les AMG auditeurs, modestes et géniaux, souscripteurs, modestes et géniaux que nous avons rencontrés tout au cours de ce week-end, un peu partout, dans les débats qui ont suivi la projection de notre film Chomsky et compagnie, à Bayonne, à Dax, à Pau, à Paris, à Arles, à La Ciotat et un peu partout, avec Guy Vanctil, avec Olivier Azam et moi-même. C'était vraiment un bonheur de vous rencontrer, de parler, de bavarder et de boire des coups, il faut bien le dire aussi. C'était parfois très chaud, c'était toujours chaleureux. Je vous remercie tous. Ben, on continue, on vous dira au fur et à mesure où nous serons au cours des jours prochains et des semaines prochaines. Il y aura évidemment une suspension quand même avec les fêtes de Noël. Alors aujourd'hui, vous êtes impatients de savoir ce qu'on va faire de notre accusé. Eh oui, aujourd'hui, troisième audience, troisième émission consacrée à l'homme politique le plus populaire de France. Scandaleux procès qui a eu lieu, vous vous en souvenez, puisque vous êtes venus nombreux là aussi au théâtre de Jazet à Paris assister à ce tribunal des condamnés d'avance. Alors évidemment, vous êtes nombreux sur le répondeur de la basse, si j'y suis, à dire « Ah, mais ça rappelle !» Bah oui, ça rappelle. Et ça rappelle. Mais c'est un peu différent. Le tribunal pour rire a été inventé au même moment que le tribunal a été inventé. Je ne sais pas très bien d'ailleurs où ça a été inventé. C'est intéressant d'ailleurs, c'est passionnant comme question. Mais j'ai pas la réponse. Mais je suis sûr qu'aussitôt, il y a eu des parodies. En tout cas, en radio, il y en a eu nombreuses. Il y a eu nombreuses parodies de nombreux tribunaux pour rire, dont un dont je me souviens dans mon enfance, c'était le tribunal, c'était le dimanche, si j'ai bonne mémoire, et c'était offert par la bolle de Florine, la bonne tisane pour le foie. Et c'était un certain Yves Degnaud, un comédien célèbre et très aimé à l'époque, qui était toujours, lui aussi c'était un condamné d'avance, qui était toujours fautif et ça lui retombait toujours sur le nez, c'était le lampiste. Voilà, qui était toujours dans son tort et qui écopait toujours de la peine maximum, mais quand même il revenait le dimanche suivant. Voilà, donc c'est une parodie de plus, parodie de justice. Vous pouvez en voir, en lire, en tout cas ces jours-ci dans le Plan B, le journal que je vous conseille de ne pas lire surtout. Et mais si jamais vous tombiez quand même dessus, eh bien vous pourriez voir qu'il y a en dernière page un certain journaliste célèbre qui est jugé. Il y a beaucoup de choses assez gratinées dans ce numéro de Plan B, suffisamment de choses gratinées pour que je vous conseille évidemment de ne pas le lire et de ne pas l'acheter. Donc aujourd'hui, dernière séance pour notre ami Becca et jugement à la fin, peut-être en voiture. C'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet avec le journal en ligne Bakchich, le tribunal des condamnés d'avance.
L'audience est ouverte. Nous allons faire entrer l'accusé. L'accusé est-il présent, monsieur l'avocat?
Bernard Kouchner est comme à son habitude sur le terrain. Il délaisse ce soir l'action médiatique qu'il tient en piètre estime et donc ne sera pas présent.
Le tribunal des grands condamnés d'avance ouvre le procès en réhabilitation de Kouchner Bernard. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, je vais vous demander de lever la main droite, de promettre de dire toute la vérité, rien que la vérité, et de dire « Je le jure ».
Je le jure. C'est donc en tant que témoin éclairé que je parlerai des premiers pas de Bernard Kouchner en tant que jeune volontaire humanitaire Et à l'époque, si vous voulez, les services secrets français, effectivement, agitent la propagande du génocide pour susciter un élan de sympathie dans la communauté internationale pour favoriser la reconnaissance de l'indépendance du Biafra. Donc au Biafra, il y a une violation du droit international humanitaire, c'est bien évident, utilisation de la faim comme une arme de guerre, mais il n'y a pas de génocide. Et là-dessus, Bernard Kouchner, dans sa loi du tapage médiatique, est assez coutumier du fait, puisque en 1974, il continuera de parler de génocide dans le nord de l'Irak, en pays kurde, alors qu'il y a des massacres, pas de génocide non plus. Et de même, il parlera à nouveau de génocide au début de la guerre civile au Liban, en 1975, alors que là non plus, il n'y a pas de génocide. Bernard Kouchner se fait le relais, malgré lui. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il était conscient qu'il faisait le rôle ?
C'est la question que se pose le tribunal, monsieur Marc-Antoine Pérouse de Monclos.
Eh bien écoutez, je me demande, je pense qu'il n'était pas conscient qu'il faisait le jeu des services secrets français. Mais est-ce que ce n'est pas pire ?
Et je voulais demander aux témoins, quel était le surnom que l'on donnait à Bernard Kouchner au Biafra ?
Alors, je ne sais pas si à l'époque on l'appelait déjà un tiers-mondiste de tiers-mondain. C'est peut-être venu après.
Avant d'avancer plus loin dans les témoignages, je crois qu'il serait bon d'avoir une idée du profil psychiatrique, psychologique de l'accusé. Aussi, nous faisons appel à monsieur, au docteur Frédéric Pagès, qui est expert psychiatre.
Le sujet présente-t-il un état dangereux ? Est-il accessible à une sanction pénale ? Est-il curable ou réadaptable ? Alors j'ai été conduit à rencontrer Monsieur Kouchner à plusieurs reprises. Le sujet était dans un état de grande confusion mentale, très agité. Pour le calmer, je lui ai expliqué qu'il n'était pas filmé, ce qui a redoublé son agitation quand il a su qu'il n'y avait pas de caméra pour lui. Et il a évoqué un souvenir particulièrement douloureux, je le cite, à cause de ma petite taille. Je me suis fait virer d'un camp de nudistes sous prétexte que je mettais mon nez dans les affaires des autres. Plus tard, j'ai appelé ça le droit d'ingérence.
Monsieur Francis Christophe, promettez de dire la vérité, levez la main droite et dites je le jure.
Je le jure. Alors Bernard Kouchner s'est intéressé à la Birmanie en 2002. La FIDH, la Fédération Internationale des Ligues de Droits de l'Homme, envoie une enquêtrice sur place qui revient avec des plaintes de victimes de Total, instruites par une magistrate qui a la particularité d'être un ancien membre du cabinet de Bernard Kouchner quand il était ministre de la Santé. Alors les avocats de Total ont compris qu'il y avait une carte à jouer et que cette carte, c'était la carte Bernard Kouchner. Ils l'ont donc approché, lui ont suggéré de créer BK Conseil et il est parti pour 48 heures en Birmanie. Il en est revenu avec un superbe rapport de 19 pages, dont je ne vais pas vous infliger la lecture, simplement le titre. C'est la relation d'un voyage et de la découverte d'une industrie muette. Il faut comprendre que Total, paraît-il, est muet.
Est-ce que M. Kouchner a été payé pour ce travail ?
Ah, il a fini harcelé par des confrères, il a fini par reconnaître avoir perçu 25 000 euros.
Monsieur le procureur voulait dire quelque chose.
25 000 euros pour 19 pages. Est-ce que vous connaissez des journalistes payés à ce tarif?
Christine O'Krent.
Je pense que Christine O'Krent l'est bien davantage.
Oui. Je voudrais poser au témoin une question. On sous-entend qu'il aurait touché beaucoup d'argent pour avoir nié le travail forcé en Birmanie. Est-ce que il a été imposé par le fisc? Parce que nous savons très bien que le fisc, chacun de nous le sait, est absolument au courant de ce que nous touchons. Et absolument sévère sur les délais. Alors, s'il a touché des sommes que vous dites, est-ce qu'il a été imposé? Parce que s'il n'a pas été imposé, c'est que le gouvernement reconnaît qu'il n'a rien touché.
Mais ça, il arrive.
Au moins, sauf les 250 000 francs ou 25 millions d'euros. Mais là, écoutez, on ne peut pas lui reprocher la fin quand même. Cet homme est marié, il a des enfants, il a une villa en Corse, il a une piscine. Et tout ça, ça fait partie quand même des frais de représentation. Peut-on lui reprocher, cet homme qui a consacré sa vie aux pauvres du monde entier, de vouloir vivre un peu comme tout le monde? C'est la question que je vous pose. Non,
mais... Francis Christophe.
François Ruffin, je vais vous demander de lever la main droite, de promettre de dire la vérité et de dire « je le jure ».
Je ne lève que la main gauche. Je promets de dire la vérité. Je suis tombé sur une dépêche AFP où on annonçait « L'Oréal connaît une croissance du bénéfice à deux chiffres pour la 19e année consécutive ». Et L'Oréal, c'est la propriété de Liliane Bettencourt. C'est la troisième fortune de France, mais c'est la femme la plus riche du monde. Et maintenant, la question que vous posez, c'est quel est le rapport entre Liliane Bettencourt et Bernard Kouchner?
Oui, c'est la question que la Cour se pose.
Eh bien, à l'époque, donc, je tombe sur un autre morceau dans la presse. C'est un extrait de Challenge. On découvre que Bernard Kouchner, qui était à l'époque ministre de la Santé, remet la Légion d'honneur à Liliane Bettencourt et lui murmure « Vous auriez pu vous contenter d'être fortunée ou d'être belle et vous aviez les deux qualités. »
C'est je trouve
que moi, je suis là cité en tant que témoin de la défense, hein, je vous rappelle. Je trouve que c'est un acte courageux de sa part. Parce que un ministre de gauche, pour avoir tendance, vous savez, quand on est socialiste, à se vautrer dans les archaïsmes, à aller remettre des légions d'honneur aux travailleurs intérimaires. Et là, bah, c'est un signe d'ouverture quand même, c'est un signe de...
Le professeur Jean Bricmont, que restera-t-il de l'œuvre de Bernard Kouchner en matière de droit d'ingérence?
Tout d'abord, il faut avoir les idées claires sur ce qu'on entend par le droit d'ingérence. On ne suggère pas que le Brésil a le droit d'intervenir en Irak pour y instaurer une démocratie et accessoirement s'emparer de ses ressources pétrolières. On ne suggère pas non plus que le Bangladesh a le droit d'intervenir aux États-Unis pour les forcer à réduire leurs émissions de CO2 qui risquent de nuire gravement à l'avenir au Bangladesh. Non. Ce que ce droit signifie, c'est le droit unilatéral des pays puissants d'intervenir dans les affaires intérieures des pays faibles. La question qui se pose est la France est-elle un pays puissant? Je ne veux vexer personne. Je sais, et mon accent le trahit, que je ne suis que belge. Néanmoins, qu'en est-il alors de cette politique d'ingérence américaine, chère à Monsieur Kouchner? Qu'en est-il de ses conséquences pour ce qu'on appelle aux États-Unis le reste du monde?
Bernard Kouchner et les médias, nous allons faire appel à un connaisseur qui est Daniel Schneiderman.
Il ne disait pas « vous êtes des minables ». On ne parle pas comme ça à la télévision. Il disait « nous sommes des minables ». Nous ne faisons rien. Il y avait une phrase typique kouchnerienne qui me frappait à chaque fois beaucoup, c'était « et dire que pendant ce temps-là, nous ne faisons rien ». Vous voyez? Donc il se mettait dans le coup. Il était dans le truc. Nous sommes là, fêter Noël, nous réveillonnons dans nos foyers, nous faisons des courses, nous achetons. Alors, comme lui, il revenait de l'enfer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il arrivait sur le plateau de Claire Chazal à cette époque-là, il arrivait toujours, si vous voulez, en provenance directe de Roissy. Il tombait de l'avion, il avait pris le car Air France, qu'il l'avait déposé à la porte Maillot, vous savez, là, sous les affiches géantes de Charles Aznavour. Et donc, moi, je comprenais bien, Monsieur le Président, que quand il disait « nous ne faisons rien », ne parlons pas de lui, puisque lui, il en arrivait. Et Monsieur le Président, quelle honte à chaque fois, je ressentais. Quelle honte était la mienne. Pendant que Kouchner portait des sacs de riz aux enfants africains, le dimanche, les jours fériés, nous, on était là. Nous, on prenait le métro avec insouciance. On se promenait main dans la main, en amoureux, au Lidl, parfois même au Franprix, Monsieur le Président. Avec des caddies regorgeant de riz, de pâtes, de thon naturel. Au pire, On pointait dans nos confortables ANPE surchauffés, à plantes vertes. Certains touchaient de plantureux RMI. La vie était belle. On ne foutait rien. L'autre matin, donc, je l'écoutais sur France Inter, demeurant la cicloter sur les Chinois. Les Chinois, le Dalai Lama, tout ça. Il a dit, on peut pas faire des droits de l'homme tout le temps. Il l'a dit. Non mais... Mais c'est vrai. Alors c'est vrai que l'émission était un peu compliquée. Il était en train, si j'ai bien compris l'opération à laquelle il se livrait, c'était pas une vraie rencontre, c'était une espèce de fausse rencontre. Je pense qu'on avait dû le briefer et lui dire, les Chinois, écoute Nicolas Demorand le matin, donc si t'as un message. À leur faire passer, c'est le moment.
La séance reprend. On s'est demandé que restera-t-il de l'œuvre de Bernard Kouchner. On peut se demander si l'élite de notre pays, cette élite qui se fabrique actuellement, cette élite en herbe de nos grandes écoles, en quoi cette élite peut-elle profiter de l'œuvre et du message et de l'expérience, et j'oserais dire de l'aventure, de Bernard Kouchner. Pour cela, nous allons faire venir Monsieur Bertrand Roté, qui est enseignant, s'il veut bien venir jusqu'à nous, Monsieur Roté, qui est enseignant et qui enseigne le marketing politique à l'école Sciences Po.
Je le jure.
Alors, on vous écoute.
Alors, on l'ignore peut-être, mais à Sciences Po, on forme des hauts fonctionnaires, on forme des cadres de demain, on forme aussi des hommes politiques. Okay. Moi, mon métier, c'est de former les gens au marketing politique. Et donc, mon métier, c'est de prendre des gens qui souhaitent devenir des hommes politiques et leur apprendre comment on devient des hommes politiques. Alors, dans ce métier, il y a un avant et un après Kouchner. Alors, l'avant Kouchner, c'était simple. J'apprenais à mes élèves à respecter la démocratie. Donc, je leur disais, pour devenir un homme politique, il faut se présenter à des élections. On peut d'abord se présenter aux élections du maire, on peut se faire élire conseiller général, ensuite député, et je leur expliquais comment il fallait s'y prendre. Alors je leur disais, faut faire les cages d'escalier, faut faire les marchés, faut aimer les gens. Et puis, à partir de 1980, j'ai complètement modifié mon cours, et ça grâce à Bernard Kouchner, puisqu'on ne l'a pas dit suffisamment, mais Bernard Kouchner est un des hommes politiques qui, en France, a fait une carrière sans jamais avoir été élu. Et donc, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à découvrir en regardant cet homme vivre. Et la première chose que j'ai déduite, c'est qu'effectivement, on était passé de l'ère de la démocratie à l'ère des médias. Donc, j'ai inventé une méthode que j'ai déposée. Alors, vous n'avez pas le droit d'utiliser sans me payer des dividendes, qui s'appelle la méthode Pipo ou méthode Bernard Kouchner. Alors, pourquoi méthode Pipo? C'est un anagramme. D'abord, parce qu'il faut être systématiquement sur la photo. À 18 ans, il était déjà avec les stars de l'époque. On les a oubliés un petit peu. C'est Che Guevara et Castro. Quelques années après, avec Sœur Emmanuel. Et là, il avait découvert une technique qui s'appelle le baiser du vampire. Ça consiste à aspirer l'auréole de l'autre. Alors, en un mot. Vous voyez l'abbé Pierre? Donc, hop, on se colle contre l'abbé Pierre et on aspire son auréole. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut se débrouiller pour que l'auréole de l'abbé Pierre couvre la tête des deux personnages. En l'occurrence, il l'a utilisé avec l'abbé Pierre, avec Sœur Emmanuel. Si vous voulez y essayer un jour, hein, faites-vous sanctifier et vous allez voir, il va se pointer. Voilà. Ça, c'est pour le premier P. Être sur la photo. Deuxième chose, Pipo, incarner une idée simple. Alors le président l'a dit, c'est pas lui qui l'a inventé, d'autres Bernard l'ont inventé en même temps que lui, un tapis pour l'entreprise, BHL pour la culture française, lui, il a choisi l'humanitaire. C'est bien, et on vient de le dire à l'instant, ça a un avantage, c'est qu'effectivement, avec un peu de chance, on est tous les jours ou tous les 3 jours, visiblement les spécialistes ont compté, sur les journaux télévisés. Quand je dis explique ça à mes élèves, le I de Pipeau, ils me disent « Monsieur, qu'est-ce qui reste comme idée libre ?» Alors j'ai généralement une liste. Les idées libres aujourd'hui restent les baleines, les ours polaires, et mieux que ça, sauver le PS. La personne qui incarnera « J'ai sauvé le PS » aura un avenir politique au moins aussi brillant que celui de Kouchner. Alors vous dites, après le I, il y a le P. Et là, c'est passé au-dessus de la droite et de la gauche. Alors, on ne l'a pas dit, mais Bernard Kouchner a commencé chez les étudiants communistes. Hein. Voilà, il a terminé chez Sarkozy. Donc effectivement, le jeu politique simple, il faut le dépasser. Bernard Kouchner le prouve. Hein. Je n'arrête pas de le dire à mes élèves. On s'en fout, vous pouvez être communiste. On s'en fout, tout ça, c'est une histoire complètement dépassée. Ok. Alors, vous me dites, effectivement, il y a un haut, maintenant. Alors, le haut, c'est Okrent. Le haut, Okrent, c'est épouser une journaliste. C'est facile, à Sciences Po, il y a une formation de journaliste à côté, vous draguez. D'accord? Donc, une méthode, Pipeau. Alors, les gens vont me demander tout de suite après où est-ce qu'on trouve le truc. C'est 150 euros, c'est un CD, vous allez voir. Vous le donnez à votre fils. Voilà ce que Bernard Kouchner laissera au futur élites de Sciences Po, une magnifique méthode qui leur permettront effectivement d'avoir une carrière politique sans jamais être élu.
Merci beaucoup pour votre retrait de Sciences Po. On vous change non plus. Bien. Alors voilà le moment du réquisitoire du procureur Philippe Cohen.
Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, qui allez-vous juger aujourd'hui? De quoi est-il responsable? Et pourquoi doit-il être condamné? Il a été dit que le prévenu était né lors de la guerre dite du Biafra. On peut comprendre la métaphore et l'intention du tribunal à ce sujet. Mais peut-on laisser dans l'ombre les 30 premières années de la vie d'un homme? Le petit Kouchner est le fils d'un médecin devenu homme de presse. C'est aussi un jeune communiste qui siège à la direction de l'Union des étudiants communistes, écrit dans le journal Clarté, et s'engage bientôt dans l'opposition dite des Italiens, à ne pas confondre avec les trotskistes, même si Kouchner a su lui-même provoquer une scission quelques années plus tard à Médecins sans frontières. Donc les Italiens, avec un groupe de potes, dont l'un, Michel-Antoine Burnier, va devenir, très récemment, son biographe officiel qu'il traîne en ce moment même sur différents plateaux de télévision. Et alors là, je voudrais, Monsieur le Président, attirer votre attention sur un point très particulier. Il s'agit ni d'une biographie autorisée, ni d'une biographie non autorisée, il s'agit d'une biographie accompagnée. Grâce au couple Burnier-Kouchner. Médecine, médias et politique sont donc les trois astres qui vont peser sur l'itinéraire du prévenu. Certains témoins ont bien entendu évoqué l'un ou l'autre de ces aspects. Oui, c'est vrai, Bernard Kouchner est le plus populaire de nos hommes politiques. Il survole depuis des années le hit-parade des personnalités politiques et même celui des personnalités tout court. Publié chaque année par la Gazette de la Cour, j'ai nommé le journal du dimanche. Il devance de peu dans ce classement, vous le noterez, Monsieur le Président, un certain Bertrand Delanoë et un certain Jacques Chirac, deux hommes politiques qui sont devenus si fondamentaux dans la vie politique française d'aujourd'hui. Voilà donc un paradoxe qui devrait faire réfléchir les philosophes et aussi les nombreux témoins qui, d'après ce qu'on m'a dit, n'ont pas jugé utile de faire le déplacement jusqu'à ce tribunal, craignant sans doute l'influence de Bernard Kouchner. Le paradoxe est le suivant. Et si l'unité de bruit médiatique, dont on nous parle si souvent, d'un individu, était inversement proportionnelle à son poids dans le réel? Je vous laisse, Monsieur le Président, méditer cette question. Populaire, en effet, oui, mais pourquoi? À cause d'un sac de riz, nous a-t-on expliqué. Admettons. Parce qu'il a ses entrées à la télévision, a-t-il été ajouté. Il les a même épousées, ces entrées. Enfin, épousées, je ne sais pas. Enfin, d'autres ont suggéré que Bernard Kouchner avait trahi son camp, la belle affaire, qu'il était le véritable ingénieur de la politique d'ouverture de Nicolas Sarkozy, puisque c'est lui, Monsieur le Président, qui a exigé que d'autres, avec lui, franchissent le Rubicon après l'élection de Nicolas Sarkozy. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est grâce à Bernard Kouchner que d'autres socialistes, ou pseudo-socialistes, comme a dit l'excellent Ruffin tout à l'heure, que d'autres socialistes, donc comme Martin Hirsch, Jean-Pierre Jouyet, ont rejoint le gouvernement de Monsieur Fillon, donnant corps à cette ouverture qui attend désarçonner la gauche. Désolant réquisitoire, car si Bernard Kouchner n'avait réussi qu'à débarrasser la gauche de Martin Hirsch et de Jean-Pierre Jouyet, en plus de sa propre personne, il conviendrait, je crois, de lui élever une stèle à l'entrée de la rue Solferino, car si finalement l'accusé n'était responsable de ce qui a été évoqué dans cette enceinte, la relaxe s'imposerait, même à moi, qui suis censé requérir contre lui.
Merci beaucoup, monsieur le procureur. La parole est enfin à la défense.
Monsieur le Président, Kouchner dit qu'il est né au Biafra. Ce n'est pas fait. Il est né dans une conversation dans un bistrot parisien dont le journal des étudiants communistes à l'époque, Clarté, rendait compte. Et dans cette conversation de bistrot, il disait « Je serai le nouveau Rastignac. J'arriverai par la contestation. » Ici, nous voyons tout de suite la faiblesse du personnage. Rastignac, quand il se révèle, c'est au Père Lachaise, dans un cadre dramatique, à propos de l'enterrement du Père Goriot. Et il s'adresse pas à des petits copains en train de boire de la limonade, il s'adresse à Paris, à nous deux désormais. Ici, nous avons un pauvre air qui dit « Je serai Rastignac ». Karl Marx, que Kouchner fréquentait à l'époque, avait bien dit « L'histoire ne se répète pas, elle bégaye ». Et vous n'avez pas condamné un type pour un bégaiement. Kouchner est un bégaiement de l'histoire. Bon. Deuxièmement, Rastignac toujours. Rastignac épouse, pour arriver, la fille Nunzingen. Il épouse la banque. Et une banque qui s'est enrichie du sang de la vieille garde à Waterloo. Kouchner, lui, épouse une journaliste qui s'est fait remarquer en insultant un condamné à mort dans sa cellule. Il s'agit du premier ministre du Shah Obeida. Il y a là un manque de goût, évident. Vous n'avez pas condamné un mec pour un manque de goût. Bon. Troisièmement, on lui reproche sa photo avec ce sac de riz sur le dos. Mais nous vivons à l'époque de l'image. Ce qu'il apporte aux gens, c'est pas tellement le riz, c'est pas important, c'est l'image. Et il leur apporte l'image. On lui reproche de ne pas dénoncer le travail forcé. C'est vrai. Mais il l'a nié. C'est déjà un petit pas vers le travail forcé. Et en plus, il a réussi à se faire payer pour ça. Chapeau. Et puis enfin, quand le président Kadhafi, le colonel, vient à Paris, en visite d'État, lui qui est ministre des Affaires étrangères, il l'évite. Il n'est pas condamné à courant d'air, quand même. Bon. Alors, qu'est-ce qui reste? À propos du Kosovo, dont il a été le gouverneur, il a parlé de milliers de victimes. Et le tribunal pénal international l'a contredit. En disant, il n'y a pas des milliers de victimes, il y a une centaine. Il a menti. Mais on n'est pas condamné pour ce mensonge, c'est un mensonge qu'il a fait pour la bonne cause. Et puis on a dit, il a retourné sa veste. Mais enfin, si vous allez condamner un mec parce qu'il a retourné sa veste, vous allez commettre un véritable génocide. Il y aura une Shoah dans le monde médiatique et dans le monde politique. Alors, soyez raisonnable. Enfin, vous lui avez parlé du fric. Mais comme je vous l'ai dit, cet homme a faim. Sa femme touche plus que lui. Il a un réflexe de mâle, enfin. Surtout qu'il avait écrit dans cet article de Clarté, j'explique l'histoire du monde par l'hormone mâle. Bon. Et donc, nous arrivons maintenant aux choses essentielles que vous avez eues, monsieur le procureur, le bon goût d'évoquer. Mais en tirant des conclusions qui ne sont pas les miennes. Moi, je suis la défense. Nous vivons aujourd'hui une époque extraordinaire. C'est l'époque des droits de l'homme. Il n'y a plus de valeur du tout. Il n'y a que les droits de l'homme. Et qu'est-ce que je lis? les droits de l'homme sont, pour Robert Ballinter, l'horizon moral de notre temps. Pour Kofi Annan, le fondement de toutes les sociétés. Pour Jean Daniel, le germe d'un véritable gouvernement mondial. Et pour Elie Wiesel, la religion séculaire mondiale. C'est formidable. Mais seulement, c'est notre nouvelle religion. Mais vous savez très bien que lorsque les croyants sont, non pas intolérants, mais ont la volonté de prosélytisme, il faut que nous étendions cette vision des droits de l'homme à l'univers entier. Avec le concept des droits de l'homme, nous pénétrons au cœur des autres cultures pour les obliger à penser comme nous. Parce que les hommes sont égaux, mais pas les cultures. Alors, à charge pour les droits de l'homme d'abolir les défenses immunitaires des peuples chez qui on les exporte. C'est un peu comme la petite vérole que les conquistadores portaient chez les Indiens. Et là-dessus, Kouchner approuve. Mais il a raison. La déclaration des droits de l'homme, c'est pas seulement une déclaration de paix et d'espoir, c'est une déclaration de guerre. Pour ceux qui ne croient pas comme nous, est-ce qu'on a le droit de ne pas croire comme nous? Enfin, je vous pose la question. Mais c'est inadmissible. Bon, surtout quand on voit les droits de l'homme et la démocratie, ce que ça donne chez nous. Lisez les journaux ce soir, écoutez la radio cette nuit, vous verrez ce que c'est, ce que ça donne. Bon. Donc, il est pour l'intervention, mais il a raison. Et pour l'intervention en Irak, il dit, bon, on a menti, mais tant pis. N'oubliez pas qu'il a été stalinien. Il lui restait une petite vague comme ça, hein, une petite trace. Hein, la fin justifie les moyens. On a menti. Colin Powell a montré une bocale de pipi devant l'Assemblée de l'ONU en disant « C'est une arme de destruction massive ». Et tout le monde dit « Oh, bon ». Alors lui, il vous dit « On a menti, mais on a amené les droits de l'homme en Irak ». Et comment pouvez-vous nier qu'on n'ait pas amené les droits de l'homme en Irak? Regardez les photos de Guantanamo, les photos d'Abu Ghraib, les manifestations, les kamikazes, les viols, etc. Mais c'est fantastique ce qu'on a fait. Bon. Et le devoir d'ingérence justifie désormais les guerres préventives contre les États hostiles à la démocratie. La Providence a fait que ceux qui ont découvert les droits de l'homme, c'est nous qui sommes les plus forts. Alors, écoutez, utilisons notre force. Seulement, nous avons le droit de faire la guerre pour amener ces gens-là à penser comme nous, à vivre comme nous. Mais la guerre n'est plus la guerre du temps de Clausewitz, la guerre des Lumières, où il faut empêcher la guerre d'aller aux extrêmes, jusqu'à la destruction de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est la guerre absolue inventée par les nazis. C'est la guerre contre les civils. Il faut tuer le plus possible de civils, et comme ça, les gouvernements vont capituler. C'est ce qu'on fait en Irak. Et vous avez l'exemple dans l'histoire. Guernica, 5000 morts chez les Rouges, zéro chez les Blancs. Rotterdam, 35 000 morts, le gouvernement capitule le lendemain. C'est pas positif, ça? Mais alors, nous, on a fait mieux. C'est Dresde. 100 000 morts. Mais là, c'est des bandits. Ça les a excités encore plus. Alors, on a fait mieux. On a fait Hiroshima. Et on a fait Nagasaki. Mais aujourd'hui, si vous réfléchissez à l'histoire du monde, les Hollandais ont capitulé. Parce que c'est des démocrates. Mais les Boches, les nazis n'ont pas capitulé après Dresden. Au contraire, ça les a excités. Et alors, contre les peuples du tiers-monde, qu'on doit classer parmi les totalitaires aussi, hein, entre nous. Il faut utiliser des armes beaucoup plus précises, et les armes chimiques, c'est les bombardements chimiques. En Haut-Vietnam, on a utilisé le produit orange, et non seulement on a tué des types, mais c'est beaucoup mieux, on a tué des générations à venir. Les enfants naissent là-bas avec des bras qui manquent, un œil au milieu du front comme des cyclopes, et donc c'est formidable, ça résout le problème de la surpopulation. Et Kouchner est partisan de tout ça. Et vous allez lui reprocher? Mais c'est un voyant, c'est un prophète. Maintenant, vous allez lui reprocher les Abu Ghraib et... Non, il n'y a pas participé directement. Parce que Kouchner ne fait pas la guerre personnellement, il fait la guerre par des paroles. Par exemple, dans ce fameux numéro de Clarté, qui est la naissance de cet homme, il dit, j'aurais bien voulu aider Fidel Castro, mais il m'a pas appelé. J'aurais bien voulu combattre l'OAS, mais on m'a pas appelé. C'est un monsieur qui ignore ce qu'on appelle le devancement d'appel. Si, pour rejoindre De Gaulle, on avait attendu tous que De Gaulle donne un coup de téléphone, je crois qu'il aurait ressemblé à Soubise à la fin de sa vie, il aurait eu trois pelés et un tendu derrière lui. Alors,
il n'y a rien contre lui.
Il a voulu faire de grandes choses. Il n'a pas fait. Il n'a pas eu la compétence de son ambition. Et Chateaubriand écrivait, l'ambition dont on n'a pas la compétence est un crime. Mais attention, vicomte, n'exagérez pas. Vous n'allez pas condamner un mec à de la prison pour médiocrité. C'est un médiocre que je défends. Quand on m'a demandé de le défendre, je croyais défendre un indéfendable, un monstre. Et puis je m'aperçois que c'est un médiocre. Et pour défendre un médiocre, la manière la plus efficace, c'est de montrer sa médiocrité. Je crois vous l'avoir démontré. Alors que faire de lui maintenant? Eh bien, je propose, la prison c'est exagéré, qu'on lui impose un travail d'intérêt général. Écrire ses romans sur papier 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, je suis un raté. Et voilà. Et d'ailleurs, dans cette fameuse conversation, dans le bistrot, il disait, serons-nous des ratés? Mais oui, mon vieux, t'es un raté.
Merci.
Messieurs, j'en ai terminé.
Merci.
Maître Christophe Clair.
C'est difficile pour moi d'intervenir aujourd'hui, car comment défend-on un mort? Conformément à ses habitudes les mieux établies, Jacques Vergès a proprement assassiné son client. Le président, il faut le savoir, est venu me voir et il m'a demandé si je pouvais faire disparaître le cadavre. C'est malheureusement impossible. Car Bernard Kouchner, à peine mort, a ressuscité. Alors c'est ça la question qu'il faut se poser ce soir. Pourquoi? Est-il vraiment si puissant? Est-il vraiment tout puissant au point de se ressusciter lui-même? Je sais que, en écoutant l'accusation, on lui prête le pouvoir à lui tout seul, quasiment d'avoir déclenché la guerre en Irak, faisant abstraction d'une puissance américaine qui peut-être avait sa propre faculté de choix en la matière. Ignorant au passage d'ailleurs qu'il y a une tribune qui avait été publiée par Bernard Kouchner le 4 février 2003, avant le lancement de la guerre, où il disait « Avant tout, nous souhaitons que les membres du Conseil de sécurité organisent sans délai une conférence internationale pour trouver une solution aux exactions de Saddam Hussein et amplifie la pression pour conduire à son départ au lieu de tout faire pour fabriquer un nouveau héros. » Donc, il n'est pas tout puissant, il n'est pas peut-être aussi va-t-en-guerre qu'on a voulu le dire, même si je ne chercherai pas à l'absoudre de tous ses excès. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est qu'il est une icône. C'est que malgré tout ce qu'on dit, il a un taux de popularité extraordinaire. Alors, quand je dis une icône, le problème c'est que l'attaquer, c'est le renforcer. On ne tue pas les icônes. Les Français l'aiment, il est au sommet des sondages d'opinion, et dans chacun de nous, il y a un enfant qui veut rêver, et Bernard Kouchner occupe la place du rêve. Il l'occupe, parfois il l'usurpe cette place, peu importe, mais qui veut renoncer à la part du rêve? Alors voilà la question qui doit vous hanter. Tout ce que vous avez dit est vrai, et pourtant il en ressort indemne, car tout est vrai. Son immense vanité, ses petits arrangements avec les dictatures, sa totale vacuité comme ministre des Affaires étrangères, les profondes contradictions auxquelles conduit sa politique d'ingérence, et même sa petite taille. Alors, quand je dis que tout est vrai, je commets une faute professionnelle, car si j'admets que la vérité existe, je vais mettre tous les avocats au chômage. Alors, je vais le dire autrement. La seule vérité est celle des représentations, et dans l'ordre des représentations, Bernard Kouchner est plus vrai que nature. Car dans son image également, tout est vrai. L'âme romantique de celui qui a 18 ans se fait photographier avec le Che. L'engagement à l'étranger pour les Kurdes dès 1974, quand personne ne sait qui ils sont, pour les Palestiniens après les massacres de Septembre Noir, pour tant de détresse et de souffrance. La promotion inlassable du droit d'ingérence est vraie aussi pour dépasser les limites traditionnelles du droit souverain des États à massacrer en paix leur population. Et même le bronzage et le sourire sont authentiques. Alors votre cour, monsieur le Président, voudrait dénoncer l'homme alors qu'il lui faudrait déchirer l'image. Et vous auriez pu, par exemple, prendre l'image de Kouchner, souriant, en train de serrer la main de Denis Sassou Nguesso, le dictateur du Congo-Brazzaville. Et si vous aviez voulu déchirer l'image, vous auriez pu projeter cette image sur un écran de 16 mètres de large, 9 mètres de haut. Et pendant 2 heures, vous auriez pu ne faire que le procès de cette image. Pendant 2 heures, on aurait compté les dents de Bernard Kouchner en train de sourire, on aurait analysé son sourire, on aurait commenté sa poignée de main. Et puis on aurait scruté aussi le sourire du dictateur, sa poignée de main, lui, Et puis on aurait regardé le joli couple qu'ils forment, leur connivence, leur regard complice, le joli décor tout autour. 2 heures à ne parler que d'une image. Des rangs entiers de spectateurs se seraient levés pour hurler au scandale et à l'imposture. D'autres seraient partis bruyamment en plein spectacle. Et à la fin, on vous aurait un peu hué. Mais grâce à ces quelques huées, la majorité, pour se sentir progressiste, se serait levée pour vous applaudir à tout rompre, la standing ovation que vous attendiez, monsieur le Président. Alors les journaux auraient titré sur le scandale « Bernard Kouchner furieux, Bernard Kouchner menaçant de faire un procès, Bernard Kouchner atteint, Bernard Kouchner chancelant, le soutien de Nicolas Sarkozy à Bernard Kouchner, la chanson de Carla Bruni pour Bernard Kouchner, la carte postale de soutien de George Bush à Bernard Kouchner. Voilà comment on s'en prend une icône, monsieur le Président. Seule la machine médiatique peut arrêter le machin médiatique. » Alors moi, comment voulez-vous que je défende un personnage fantôme dans un procès de papier ? Je vais vous faire une confidence, si vous n'aviez pas déjà compris, je ne veux pas défendre Bernard Kouchner. Ou plutôt, je veux défendre le jeune médecin militant contre le vieux ministre. Je veux défendre une idée, celle de l'engagement et de la générosité. Je veux défendre l'utilité du droit d'ingérence, pas toujours, pas partout, mais quand même. Est-ce qu'on peut laisser les États massacrer en paix leur population sans rien faire, sans rien dire ? J'ai posé exprès la question à l'expert, M. Bricmont, qu'il a reconnu un peu du bout des lèvres. Le droit d'ingérence, oui, il est utile quand il est exercé dans le cadre de l'ONU. Or, je vous le rappelle, et j'ai ressorti les textes, je les ai examinés attentivement. La résolution 43-131, la résolution 45-100 que Bernard Kouchner a fait voter à l'ONU, par l'Assemblée Générale, à l'unanimité de tous les États du monde, eh bien ces résolutions prévoient un droit d'ingérence, mais dans le cadre de l'ONU. C'est dire que quand on lui reproche de faire une action militaire dans un cadre impérialiste, on lui reproche de s'asseoir en réalité sur les principes qu'il a lui-même défendus quelques années auparavant. Alors moi je veux sauver le principe et condamner sa déviation. Alors, ce droit d'ingérence, sa prééminence serait condamnable, c'est sûr, mais son absence serait absurde. Et pour défendre cette idée, je dois me débarrasser de celui-là même qui l'a corrompu par ses excès médiatiques. Duran Matt disait « Le monde a fait de moi une putain, je veux faire du monde un bordel ». Bernard Kouchner, hélas, a suivi le chemin inverse, et donc je me dois de défendre le droit d'ingérence contre Bernard Kouchner. Car Bernard Kouchner a caricaturé et dénaturé le droit d'ingérence. Mais je le crois sincère malgré tout dans sa défense du droit d'ingérence, son petit côté Tintin, je crois, est d'un côté honnête chez lui. Alors rendre service à Bernard Kouchner, c'est débarrasser le droit d'ingérence de Bernard Kouchner, de son image, de l'utilisation absurde qu'il incarne. Bernard Kouchner s'est laissé dévorer par les médias, il a tout sacrifié à l'image, le trublion s'est fait polichinelle, eh bien il doit céder la place à ses idées. Des idées qui sont envers et contre tout, monsieur le Président, des idées généreuses. Bernard Kouchner est une image sur une feuille de papier. Alors, monsieur le Président, ne le jugez pas. Ne le condamnez pas. Éternuez et il disparaîtra.
Merci. Alors,
voici l'instant attendu, celui de la sentence. Quelle condamnation ? Eh bien, après délibération, le tribunal des condamnés d'avance a pris la décision de mettre le jugement délibéré sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Et oui, Française, Français, vous pourrez au 01 56 40 37 37 sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, prononcer votre sentence, votre condamnation, et peut-être la relax. C'est un véritable tribunal populaire que devient ce répondeur. Et voici d'ailleurs 2 propositions qui nous sont déjà parvenues.
Accusé Kouchner, levez-vous. Accusé Kouchner, je vais vous lever. Ah, vous êtes déjà debout, pardon. La sentence est coupable. Donc, vous serez condamné à ne plus vous présenter devant aucun micro, à ne plus être à l'image devant aucune caméra, aucune télévision. Et vous êtes condamné au silence. Et vous êtes condamné à agir. Voilà. Ceci pour une période à perpétuité, avec une sûreté de 22 ans, en sachant que d'ici là, on ne veut plus vous voir à la télé, plus vous écouter à la radio, et peut-être même éviter de vous croiser dans la rue. Vous êtes dangereux quand on vous écoute. Voilà la sanction. Vous pouvez partir. Vous êtes semi-libre. Au revoir, accusé.
Oui, à propos du procès de Bernard Kouchner, moi j'ai deux propositions de condamnation à soumettre. La première, ce serait, pour son côté super-héros humanitaire et sauveteur du monde, ça serait l'obliger à compter le nombre exact de grains de riz contenus dans un sac de 50 kilos. Et la deuxième, donc ça serait plutôt sur son côté pédant, donneur de leçons, ça serait l'obliger à prononcer toutes les interviews en n'utilisant que des contrepétries. Alors au lieu de dire « Moi, Bernard Kouchner et mon expérience auprès de l'illustre médecin sans frontières déclare que l'Afrique est bonne hôtesse », ça donnerait « Moi, Benoun Karcher, avec l'expérience de l'illustre Mercière sans fond de teint, déclare que l'Afrique est bonne aux fesses ». Allez, salut les amis, et merci pour tout. Bobby de Vienne, ciao, ciao.
Voilà, deux propositions de jugement, de sentence, de condamnation. Vous pouvez continuer, évidemment, vous êtes invité à vous prononcer au 01 56 40 37 37. Et puis, vous avez pu remarquer que, contrairement à l'habitude, il n'y a pas eu de message du répondeur de la basse et j'y suis en début d'émission. Eh bien, c'est qu'il y a eu un petit retard technique. Mais voici quelques messages parmi ceux que vous avez laissés sur ce répondeur au cours de cette fin de semaine au 01 56 40 37 37.
Ben, ça fait bizarre. Vraiment, ça fait un petit peu bizarre et puis ça met même très en colère. Nous sommes samedi 6 décembre. Il est presque 22h30. Alors je me dis, tiens, les lumières doivent être sur le point de se rallumer au cinéma Georges Méliès à Pau. Et les spectateurs, les 300 spectateurs, il paraît qu'il y a 300 places à Pau. viennent de voir Chomsky et compagnie. Ils ont entendu Noam Chomsky et parler de la fabrique du consentement. Ils ont entendu Normand Baillargeon parler de petits traités d'autodéfense intellectuelle. Enfin, ils ont entendu parler beaucoup de manipulation. Et à la même heure, j'ai eu la curiosité de jeter un œil sur France 2. Et qu'est-ce que je vois pas? Je vois Carla Bruni. Carla Bruni qui est venue chanter. Et puis, avec sa voix sirupeuse et son ton de complaisance et de circonstance, me dire que certes, c'est très triste, mais le Téléthon, c'est un immense espoir. Mais ça, elle a raison. Ça, c'est un immense espoir pour elle et son mari. C'est ça qu'elle aurait dû dire. C'est un immense espoir de voir qu'on va pouvoir continuer à gruger les Français pendant encore longtemps, puisqu'ils sont assez cons pour se laisser manipuler par ce genre de soirée. On extorque ce qu'il leur reste des générosités, après les avoir bien escroqués, après que mon mari et d'autres dans ce monde mènent une politique qui appauvrit les plus pauvres, qui est sans pitié pour les plus faibles. On vient vous faire pleurer. On vient faire pleurer dans les chaumières. Et après moi, vous allez entendre une chorale d'enfants qui va vous fendre le cœur en chantant la quête de Jacques Brel. On se fout de votre gueule et vous allez donner du pognon. C'est un immense espoir pour nous, pour Nicolas et moi, et tous les salopards qui vous exploitent. C'est un immense espoir.
Ça se passe un peu partout en France, ça se passe aussi en Nord-Sarthe. Des éducateurs, des enseignants, des responsables de différents syndicats et des représentants de fédérations de parents d'élèves vous invitent à participer à des réunions d'information concernant les contre-réformes dans l'éducation nationale qui nous sont imposées par le gouvernement. Retrouvons-nous ce lundi 8 décembre à 20h à Mamers, salle du cloître, et ce mardi 9 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Ballon.
Bonjour à toutes et tous, c'est Huguette du réseau Éducation sans frontières de Seine-et-Marne. Encore une histoire de sans-papiers. Oui, je sais, on pourrait bloquer ce répondeur chaque jour avec ses histoires, mais celui-là, Eric, a une petite particularité. En janvier dernier, lui, sa compagne et deux jeunes enfants ont été parrainés par le modeste et génial Daniel Mermet à la mairie de Fontaucombeau. Eric est malgache et bien sûr, son nom est comme le disait Aragon, à prononcer ses noms sont difficiles. Résultat de notre histoire ancienne, il est complètement francophone. Résultat de notre histoire plus récente, il est sans papier. Il s'est fait rapeter jeudi en sortant de chez l'avocat qu'il venait voir, sur nos conseils, accompagné de sa compagne et de ses enfants. Rapeté, oui, par deux motards qui se sont sentis autorisés à stopper sa voiture pour contrôle, sans motif, dans la rue même de l'avocat. À moins que les motifs soient d'être plutôt bronzés et de sortir justement de chez un avocat. Emmené au commissariat, mis en garde à vue, puis en local de rétention administrative, comme ça, sans état d'âme, devant sa compagne et ses enfants, qui ont dû se débrouiller pour rentrer seuls chez eux. Samedi, la juge des libertés et de la détention de Meaux a déclaré cette arrestation illégale. Eric est donc rentré chez lui. Ouf, il y a encore un peu de droit dans l'air, mais quand même, ça a eu lieu. Il reste l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été notifié, et oui, arrestation illégale, annulée, mais une APRF de plus pour les statistiques. Mais Eric n'est pas une statistique et il faudra très bientôt aller le soutenir au tribunal administratif de Melun où passera son recours. Alors protestez avec nous, signez la pétition en ligne sur le site www.education-sans-frontières-au-pluriel.org à la rubrique 77. Et pendant que vous y êtes, signez aussi toutes les autres. Ah, j'allais oublier. Eric a fait une partie de ses études secondaires au centre culturel Albert Camus de Tananarive. Qu'en penserait-il, Albert Camus ?
Amis du Nord, de Lille, bonjour. Ce soir, à l'imaginaire, dernière réunion de l'année 2008, avec dégustation de bière de Noël. Donc, venez nombreux de Lille, d'Arras, de Maubeuge et d'ailleurs. À bientôt, au revoir.
8 millions de personnes ont regardé dimanche le concours Miss France. 600 000 ont voté pour leur candidat. Si on ajoute tous ceux qui regardent la Starac, on ne peut pas leur demander en plus de voter au prud'homal. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Voilà, pour une fois les messages étaient à la fin. Je vous rappelle, pour signer, pour soutenir Eric, l'ami malgache qui risque malgré tout d'être reconduit, Éducation sans frontières, tout attaché au pluriel, rubrique 77. Merci à tous, merci à ceux qui ont participé à ce tribunal des condamnés d'avance. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, c'est son vrai nom, hein. Frédéric Pagès, Mélodie Durand, Madame Sylvie Bertrand Roté, Jacques Vergès, Christophe Claire, Daniel Schneiderman, Francis Christophe, Jean Bricmont, Xavier Harel, Philippe Cohen, Jean-Marc Daniel, Jean-Baptiste Naudet, François Ruffin, Antoine Chao et toute l'équipe de la Basse J'y suis. Évidemment, l'équipe de Bakchiche Info avec qui nous avons organisé cette petite festivité. On recommencera d'ici à juin prochain. D'ailleurs, si vous avez des idées de ce que nous pourrions condamner d'avance, vous pouvez nous le dire sur le répondeur de la Basse J'y suis. La prise de son était assurée par Alain Fauchet, Georges Tau et Laurent Massetti. Merci aussi aux musiciens du Bakchiche All Stars Orchestra, plus connu sous le nom du duo Petite Vengeance, Raphaël Kélien et Jérémy Piazza. Et merci aussi à l'ami Jérôme Bourdelon. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures et faire tous les commentaires que vous souhaitez. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent. C'est Koyen Guyane et Raphaël Moutéa qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perrier, Agnès Lebot. Attends vos messages au répondeur de la Basse J'y suis, c'est-à-dire au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réclame.